France Inter, il est 7h30. Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un nouveau monument aux morts aujourd'hui inauguré en hommage aux soldats morts en opération extérieure, loin de la France. On y revient en début de journal. L'arrivée du froid également cette semaine et les stations de sport d'hiver qui se frottent les mains. Un nouveau rapport de l'AIEA sur les centrales nucléaires iraniennes. La planète Mercure qui passe aujourd'hui devant le Soleil, un événement très rare. Et une nouvelle BD sur un personnage légendaire, le marin aventurier Corto Maltese.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui la ministre des Armées, Florence Parly.
France Inter.
Ils sont à ce jour 549, Sébastien, 549 Français morts en opération extérieure.
Des militaires tués depuis 1963 en OPEX, comme on dit dans le jargon, en mission hors du territoire national. Jusqu'ici, ils n'avaient pas de monument aux morts, contrairement à ceux de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale et aux soldats morts pendant les guerres de décolonisation. Ce sera donc chose faite aujourd'hui, à l'occasion de ce 11 novembre, 8 ans après le lancement du projet. Emmanuel Macron inaugurera cet après-midi ce nouveau monument aux morts, une sculpture de bronze située au cœur du parc André Citroën à Paris, en hommage à ces soldats en guerre loin de la France, Nathalie Irlandaise.
Depuis la guerre d'Algérie, aucun mémorial ne leur était dédié. Cette quatrième génération du feu, comme l'appelle l'armée, a pourtant représenté des centaines de milliers de soldats. C'est en 2011 qu'un projet a finalement été retenu et une première pierre posée en 2017. Le monument est composé de deux éléments, une sculpture réalisée par Stéphane Vigny. L'artiste a eu très vite l'idée de dessiner six soldats de taille humaine portant un cercueil invisible.
Cette sculpture représente cinq hommes et une femme. Ils dessinent avec leurs mains la forme du cercueil, mais il n'est pas présent en fait, donc c'est un vide. Symboliquement, pour moi, c'était représenter l'absence, le manque, et c'était la meilleure manière de le traduire.
Afin d'honorer les disparus, mais aussi de permettre aux familles de se recueillir, un mur entourera la sculpture. Il portera les noms de ces 549 morts pour la France, dont celui du mari de Céline, mort en 2003 en Côte d'Ivoire. Un symbole essentiel pour cette veuve et sa fille.
C'est bien, c'est une reconnaissance quand même. De voir les noms donc de ces hommes qui ont payé de leur vie pour que les Français soient en sécurité. Moi, je sais que ma fille, ça lui fait plaisir qu'il y ait ce monument-là.
Un regret toutefois pour Céline et sa fille, qui vivent dans le Sud-Ouest, avoir été prévenus trop tard pour venir à Paris pour l'inauguration.
Nathalie Irlandaise, et avant cette inauguration, le président de la République célébrera bien sûr le 101e anniversaire de la signature de l'armistice de 1918, dépôt de gerbes sous l'Arc de Triomphe et remontée des Champs-Élysées ce matin de la garde républicaine.
Il est 7h33, ressortez les doudounes des placards. Il fait froid et ça va durer toute la semaine.
Oui, on en parlait juste avant le journal. On aura 3 à 5 degrés de moins que les normales saisonnières à partir de jeudi, jusqu'à moins 2 le matin dans certaines régions. Des températures dignes d'un mois de janvier. On va pouvoir commencer à mettre donc les pulls en laine, mais aussi les skis pour les plus chanceux. Tignes a déjà ouvert ses pistes en Savoie. Val Thorens sera la prochaine station le 23 novembre. Et même dans le massif central, on se prépare dès 1200 mètres. À ouvrir les portes à la fin du mois. Une petite vague de froid et de neige donc en cette période. Et c'est tout bon pour les stations de sport d'hiver, Philippe Lefebvre.
Effectivement, que l'on soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, dans toutes les stations de sport d'hiver, le moral est au beau fixe, car en ce moment, il y a tout pour réussir une bonne saison, de la neige et du froid. Jacques Alvarez est le porte-parole de la station de Font-Romeu dans les Pyrénées.
On retrouve un petit peu les conditions que l'on connaissait il y a une dizaine d'années, avec une arrivée du froid assez précoce. Cette nuit, par exemple, on a eu du moins 10 degrés sur Font-Romeu-Pyrénées 2000, et puis des chutes de neige précoces également.
En Savoie, la neige est également au rendez-vous, et pas uniquement dans les grandes stations d'altitude, observe Frédéric Blanc-Mappa, le directeur de l'Office du tourisme d'Arèche-Beaufort.
En basse altitude, à environ 1000 mètres, il y a 5 cm, et il y a 50 cm sur les pistes. Ça a un effet indéniable sur les réservations. Je pense qu'on augmente de 30 à 50% les appels par rapport à une période normale.
Et pour les hôtels et les clubs de vacances, ces premiers flocons de neige sont l'assurance d'engranger de nombreuses réservations. C'est le cas pour Jean-Marc Filippini, le directeur général des hôtels clubs MMV.
Noël, jour de l'an, on doit avoir 12% de progression actuellement par rapport aux réservations de l'année dernière. Et l'ensemble de l'hiver a une très bonne progression, on est à plus de 20% en montée en charge de nos réservations. Des réservations qui se font avec moins d'hésitation que l'année dernière.
Des données rassurantes pour ces professionnels quand on sait que Noël et le jour de l'an représentent en moyenne 25% du chiffre d'affaires de la saison.
Philippe Lefebvre du service économique de France Inter. L'actualité à l'étranger maintenant. D'abord en Espagne, toujours dans l'impasse politique. Quatrième élection législative en 4 ans. Et toujours pas de possibilité de former un gouvernement stable. Dans le détail, le Premier ministre socialiste sortant, Pedro Sanchez, a remporté le scrutin. Mais son score est moins bon qu'il y a un an. 120 députés au lieu de 123, seul à sortir victorieux de cette séquence, le parti d'extrême droite Vox, devenu la troisième force politique du pays, 52 sièges, deux fois plus que lors des précédentes élections. Là aussi, c'est une crise politique majeure en Bolivie. La rue a finalement emporté le président sur son passage. Evo Morales a démissionné cette nuit après 3 semaines de protestations contre sa dernière réélection, très contestée par la rue. Des centaines de Boliviens sont descendus alors qu'à la télé, Evo Morales accuse lui une oligarchie, je cite, de coup d'État. Un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui. Les premières personnalités ont été arrêtées, notamment la présidente du tribunal électoral. Direction l'Iran maintenant. L'Iran dans le viseur aujourd'hui de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de l'inspection des sites nucléaires iraniens et qui doit publier un rapport aujourd'hui. Or, Téhéran inquiète de plus en plus la communauté internationale. Chaque semaine, le pays franchit un nouveau palier face aux sanctions américaines. La semaine dernière, l'Iran a repris l'enrichissement d'uranium de son usine souterraine de Fordo, un point de bascule pour les experts. L'accord nucléaire de 2015 est de plus en plus menacé, au point que les Européens, Franck Madvon, ne savent plus quoi faire pour le sauver.
Jusqu'ici, les Iraniens violaient l'accord à mèche lente, comme le dit un diplomate. Augmentation des stocks, du taux d'enrichissement d'uranium, reprise de la recherche et du développement, un processus réversible. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. 1000 centrifugeuses en plus en action sur le site de Fordo. L'Iran va plus loin. Cette fois, le délai pour obtenir la bombe se réduit et les inspections se compliquent avec ce nouveau site souterrain qui plus est. L'Iran a même empêché pendant plusieurs heures une inspectrice de l'AIEA de quitter son territoire. Du jamais vu depuis 1991 en Irak. Il lui a même retiré son accréditation. Les Européens, France, Allemagne, Grande-Bretagne tentent de rester unis. Un communiqué commun est attendu aujourd'hui. Ils assurent que la fenêtre vers une désescalade n'est pas encore fermée, que les Iraniens restent prêts à discuter du plan français, retour à l'accord si les sanctions sont levées. Mais les États-Unis ne cessent de durcir le ton. Et en janvier, un autre ultimatum expire. L'Iran ira sans doute encore plus loin dans les violations de l'accord. À ce rythme, un jour, forcément, la fenêtre sera fermée.
Franck Madvon revient en France avec 2 faits divers. Ce jeune homme de 17 ans, Tony, porté disparu depuis 3 jours en Seine-Saint-Denis. Une vidéo sur les réseaux sociaux le montre violemment frappé par une bande près du canal de l'Ourcq sur la commune de Noisy-le-Sec. Et puis cette femme entre la vie et la mort après avoir été défenestrée samedi soir à 3 dans l'Aube lors d'une violente dispute avec son compagnon.
Il est 7h37. Tournons maintenant nos yeux vers le ciel. Mercure est en transit devant le soleil.
C'est un événement astronomique rare, 10 fois par siècle. La prochaine fois, ce sera en 2032. Mercure, la plus petite planète du système solaire, va aujourd'hui passer devant le soleil. Surtout, ne regardez pas ce phénomène à l'œil nu, c'est très dangereux pour la rétine. En revanche, bien équipé, cela vous permettra de mieux connaître l'univers, Sophie Becherel.
Le premier à avoir observé le transit de Mercure est Pierre Gassendi. Mathématicien philosophe, il était féru d'éclipses. C'était en 1631 à Paris. Presque 400 ans plus tard, les astronomes n'attendent pas de nouvelles découvertes de l'observation de Mercure, mais ils tiennent à rappeler que c'est bien la méthode du transit qui sert dans la chasse aux exoplanètes. Vincent Coudet du Foresto cherchera l'Observatoire de Paris.
Avec des transits, on peut découvrir la présence de planètes. La planète passe devant l'étoile, elle apparaît en ombre chinoise, et donc la lumière de l'étoile baisse très légèrement.
La baisse de luminosité est très faible. L'observation, y compris avec des télescopes spatiaux, n'en est que plus difficile. Pourtant, ces éclipses légères permettent de faire des comparaisons entre la taille de la planète et celle de son étoile, et donc d'avoir des données.
Si on a, avec d'autres mesures, la masse de la planète, on va connaître sa densité. Et connaître la densité d'un objet, c'est déjà avoir une bonne idée de ce qu'il y a dedans. Quand vous prenez une boîte de conserve, si vous voulez savoir si elle est pleine ou vide, ce n'est pas en la voyant, c'est en la soulevant. Et vous avez une idée de ce qu'il y a dedans en regardant sa densité. Si la planète est entourée d'une atmosphère, on va pouvoir mesurer la composition chimique de cette atmosphère. On peut avoir des indications sur la température, sur la vitesse des vents. On a beaucoup d'indications qui sortent des transits.
Parmi les 4000 exoplanètes détectées détectés à ce jour, il y a forcément d'autres mercures dans notre galaxie. Des mondes chauds et inhospitaliers qui, à force d'être comparés, permettent de mieux comprendre la formation de notre système solaire.
Le transit de Mercure devant le Soleil, conseil cosmique et astronomique de Sophie Bécherel à retrouver sur franceinter.fr. On termine avec un mythe de la bande dessinée, un marin aventurier à la célèbre boucle d'oreille. J'ai nommé Corto Maltese, le personnage légendaire d'Hugo Pratt. Malgré la disparition de son inventeur, Corto se renouvelle. Il reprend du service grâce au duo Camales et Pelleyero et leur nouvelle aventure, le jour de Taro et Anne, qui nous raconte le Corto d'avant le premier album d'Hugo Pratt. Jacqueline Pétrose.
Que s'est-il passé avant que l'on découvre Corto attaché en croix sur un radeau en pleine mer? Juan Diaz Camales et Ruben Pelleyeros, fans de la première heure, ont imaginé comment le beau marin en était arrivé là. Mais toujours en respectant les codes. Juan Diaz Camales.
On doit rester dans une certaine cohérence de ces personnalités plutôt rudes, plutôt pirates, mais en même temps avec un côté aussi des marins romantiques qu'on connaît des autres albums.
Tout commence le jour de Taro One, jour pour les marins des îles Fidji de la Toussaint, mais aussi jour des surprises. Et l'album n'en manque pas. Lutte de pouvoir, jungle inextricable, on retrouve Rasputin, le moine, une femme belle et lointaine, et des indigènes rebelles. En trois albums, Ruben Pelleyeros a capté l'âme de Corto.
Je pense que ce n'est pas bien dire ça, mais c'est mon personnage maintenant aussi. Évidemment, c'est le personnage de Hugo Pratt, de le maître. Corto Maltese, je l'aimais avant, mais je l'aimais encore plus aujourd'hui. C'est beaucoup de sensations très spéciales.
On s'installe très vite et avec plaisir dans cette aventure d'avant Pratt qui nous entraîne jusqu'à Bornéo. Mais je vous rassure, si on en sait un peu plus sur la vie de Corto Maltese, le marin élégant et distant garde son mystère.
Voilà, le Corto, nouveau Corto à sortir le jour de Taro et Anne, une nouvelle aventure chez Casterman et c'est une BD France Inter.
Merci Sébastien Le Génie.